Je vais laisser les enfants sortir pour la classe. Je vois ma petite fille qui marche là, qui fait ses premiers pas, qui profite bien. C'est un peu comme un jeune chrétien qui débute dans la vie, il n'est pas très, très assuré. Parfois les vieux chrétiens aussi ont une démarche un petit peu mal assurée. Je crois que nous avons tous ce problème dans nos vies, c'est le temps, le chronos, comme les Grecs disent, le temps pour faire des choses. Et je me suis posé la question, quel temps avons-nous pour Dieu? Et quelle est notre gestion du temps pour Dieu? Alors j'ai fait un calcul et je me suis aperçu que dans une semaine, il y avait 168 heures. Et je me dis, quel est le ratio de temps que je passe avec Dieu? J'étais un peu déçu de moi-même. Et il y a une petite rue dans le sud de la France qui s'appelle, dans un petit village de France, qui s'appelle la rue du temps perdu. Et souvent, je me suis retrouvé dans cette rue parce que je perdais mon temps. Il y a aussi le dicton populaire que vous connaissez, le temps perdu ne se rattrape jamais. Alors, et pourtant, je gaspille souvent mon temps, je le gaspille. Et ce temps précieux que Dieu m'accorde, ce temps qui au lieu de le gaspiller, je pourrais peut-être le gérer mieux pour Dieu. Voilà un petit peu la question que je voudrais qu'on aborde ensemble. Et de savoir ce qui est utile aux yeux de Dieu pour mon temps. Il y a beaucoup d'avertissements dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament au sujet de ce temps. Il y en a un dans Apocalypse au chapitre 2 verset 21, vous savez toutes ces lettres qui sont données aux églises. Et Dieu dit « Je lui ai donné du temps pour se repentir ». Et le prophète Osée va nous encourager à chercher Dieu et il nous dit « c'est le temps pour chercher l'Éternel ». Alors c'est vrai que j'ai la responsabilité d'utiliser mon temps de manière utile pour Dieu. Et même Moïse, le grand prophète, va sentir le besoin de demander cette sagesse à Dieu, de l'aider dans ce qu'il doit faire ou comment il doit utiliser son temps. En psaume 90, verset 12, il est dit « Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. » Compter nos jours, ça veut dire prendre le temps avec Dieu. Et c'est vrai qu'on est parfois comme, vous savez, Pharaon. Dieu va lui donner le temps nécessaire pour changer sa vision par rapport au peuple d'Hébreu. Nous, c'est la même chose. Dieu va nous donner le temps nécessaire pour changer notre vision de notre relation que nous avons avec lui. Et souvent, nous ne l'utilisons pas de la bonne manière. Et si bien que face à Moïse, le Pharaon va endurcir son cœur. Il s'est entêté à ne pas libérer le peuple hébreu, esclave en Égypte, malgré tous les avertissements de Dieu. Et on connaît bien évidemment les conséquences de cet entêtement, c'est la ruine de son pays. Parce que Pharaon n'a pas voulu écouter les enseignements que Moïse lui donnait. Et on est souvent, fréquemment, je dirais, devant de tels choix et nous ne prenons pas le temps de consacrer assez de temps à réfléchir selon la volonté de Dieu. Dans mes habitudes, dans nos décisions de vie de tous les jours, avec les gens qui nous entourent, avec nos conjoints, avec nos parents, avec nos enfants. Et nous avons un peu comme une vision à court terme. hein, et pas selon le choix de Dieu. Et finalement, ça a souvent des conséquences fâcheuses dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Des siècles plus tard, un autre pharaon, Nécho, j'ai. En feuilletant un petit peu, je me dis, qui est ce pharaon? Et vous vous souvenez, c'est un pharaon qui voulait absolument attaquer Nebuchadnezzar. Et Dieu va le prévenir, on dit, c'est pas la peine, tu vas te faire aligner. Et c'est le prophète Jérémie hein, qui l'enseigne comme ça. Et Dieu va lui dire, le pharaon, roi d'Égypte, n'est qu'un bruit, il a laissé passer le temps. Donc l'importance de ne pas laisser passer le temps. Et l'Égypte va être détruite par Nebuchadnezzar. Hein. Alors, comment est-ce que je vais utiliser le quota d'heures et de jours que Dieu me confie? Et je pense que là, nous avons absolument besoin de sagesse pour gérer notre temps. Et c'est en Éphésiens chapitre 5, verset 16, qui nous dit, parce que les jours sont mauvais. Et en psaume 31, et je sais que tu es mon Dieu, mes temps sont dans ta main. Vous vous rendez compte? Le psalmiste dit, mon temps il t'appartient, Seigneur, tu vas faire ce que tu veux avec mon temps. Le temps de mon travail, comme celui de mes loisirs, le temps passé devant ce qu'on a appelé cette fameuse lucarne magique, cette télévision qui est d'un chronophage, d'un mangeur de temps. Maintenant, le Facebook, l'Internet, toutes ces choses-là, regardons-les de près et nous voyons que nous sommes happés parce que c'est divertissant. Mais quel temps nous prend tout cela? Et c'est à moi de mettre à la disposition de mon Sauveur chacune de mes journées, les moments de prière. Comme les moments de ma vie professionnelle, familiale, vont être pour lui. Et aucun, si nous mettons tout ça dans les mains de Dieu, n'aura du temps perdu. Alors, souvent, on se pose la question, et je me le suis posé moi-même, finalement, au fond, à quoi je sers? À quoi je sers? Est-ce que je passe mon temps à travailler toute la semaine pour subvenir à mes besoins? Est-ce que semble que comme chrétien, je fais quelque chose pour le Seigneur ou que je ne fais rien et je me dis, ah, si je pouvais servir le Seigneur à plein temps. Alors, vous savez que pendant la plus grande partie de son temps, Jésus l'a passé finalement sans faire de bruit à Nazareth. Hein, sa vie publique, c'est combien de temps? 3 ans. Hein. Et il est mort à 33 ans. Donc il y a 30 ans où sa vie ne fait pas de bruit. Il a appris un métier. Très peu de détails, d'ailleurs, nous sont rapportés sur ces 30 années. Et pourtant, à l'issue de cette période cachée, Dieu affirme qu'il a trouvé son plaisir en lui. Alors, nous pouvons tous servir le Seigneur à plein temps dans l'exercice même de nos métiers. Alors comment? Eh bien, en faisant notre travail avec cœur, comme si nous le faisions pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens, chapitre 3, verset 23. Quand vous avez votre activité professionnelle, eh bien, dites-vous que peut-être, je ne sais pas, le client que vous avez devant vous, le patient que vous avez devant vous, le type pour lequel vous construisez une maison, c'est Jésus ou c'est Dieu. Et ça va changer votre objectif. Le Seigneur n'apprécie pas les choses selon nos critères de rendement. Il désire d'abord notre cœur et notre affection. Et une journée ordinaire fournit 1 000 occasions de lui témoigner notre attachement. Et un travail payant pour lui, au milieu de l'agitation, et dans notre monde, combien ce monde est agité, un cœur content et satisfait au milieu des plaintes, la soumission parfois à un chef désagréable, ça vous est tous arrivé, Eh bien, toutes ces choses, voilà du temps qui est passé pour lui. Alors, évidemment, ces détails ne font pas de bruit. Ça, des fois, ça ne se voit pas. Mais Dieu est peut-être le seul à les voir. Mais ils ont une grande valeur à ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? Quel est notre objectif? Il y a une chose très simple à comprendre, c'est que la vision sainte de la gestion de notre temps, eh bien, elle a deux niveaux. Le premier, c'est la vocation première, c'est de connaître Dieu et de l'aimer. Ça, c'est la chose première qu'il faut faire. Et puis, notre deuxième vocation, et là, c'est ça, c'est aussi important parce que ça va faire partie de toute notre vie, c'est d'exprimer cette relation que nous avons avec Dieu dans tout ce que nous faisons et avec tous ceux que nous rencontrons. C'est ça. Alors, si la seconde vocation, celle d'exprimer la relation que nous avons avec Dieu, n'est pas liée à la première, eh bien, nous séparons le spirituel du séculier, du profane. Et alors, qu'ils doivent être unis tous les deux. Et là, nous allons voir que notre temps pour Dieu, finalement, il est très petit si nous séparons ces deux choses. Allez, on va le calculer. On vient 2 heures le dimanche, une petite prière tous les jours de 10 minutes, et puis et peut-être un mardi soir ou un mercredi soir. Sur 168 heures, vous allez consacrer, allez, 5 heures au Seigneur. C'est pas ça que vous demande Dieu. C'est bien de le faire, mais c'est pas ça que vous demande Dieu. Si vous séparez la première vocation de la deuxième, alors votre relation, notre relation avec le Seigneur est complètement déconnectée de nos activités planes. Et là, vraiment, nous ne passons pas beaucoup de temps pour le Seigneur. Alors, il existe une autre erreur qui consiste à inverser l'ordre des priorités. C'est-à-dire que les vocations de travail, les loisirs deviennent alors notre première vocation et nos loisirs, le travail, deviennent notre ministère. Et là, le visible et l'horizontal, ce que nous vivons chaque jour, eh bien, prennent le pas sur l'invisible et sur le vertical, c'est-à-dire sur la relation que nous avons avec Dieu. Il y a un auteur qui a dit, dans ces cas-là, la nature dévore la grâce. Nous sommes dévorés par tout ce qui nous entoure, par l'agitation du monde, par notre travail, par des tas de choses. Et à ce moment-là, cette nature dévore la grâce. Si nous accordons la priorité à notre première vocation et si nous cherchons à l'accomplir dans notre seconde vocation, eh bien, nous allons adopter alors une façon de penser et d'agir sainte, et nous n'avons plus besoin de comptabiliser notre temps pour Dieu, puisqu'il est à longueur de temps avec nous. Et tout ce temps, tout le temps que nous vivons, eh bien, va appartenir à Dieu. Alors, il faut vraiment demander, vraiment prier à Dieu, demander à Dieu de nous accorder une vision beaucoup plus claire de son objectif. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et donc, pour notre existence terrestre, il faut aller à la découverte de l'objectif qui est l'objectif le plus important, c'est de recentrer sur le but à atteindre avec ardeur. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans vos activités, si vous êtes... je dirais sous la grâce de Dieu et que vous mettez vous incluez cette première vocation qui est d'aimer et de connaître Dieu et de l'impliquer dans votre vie, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que vous allez donner du plaisir à Dieu. C'est incroyable, hein? Mais dans toute la parole, c'est donné. Et il faut se poser la question de savoir que faites-vous qui vous donne l'impression de procurer du plaisir à Dieu. Et il y a un autre auteur qui a dit une phrase extrêmement pertinente. Il a dit « L'endroit où Dieu vous veut est celui où se rencontrent votre joie la plus profonde et le besoin le plus criant du monde. L'endroit où votre joie la plus profonde, cette joie que vous êtes d'être en Dieu et d'être là où le besoin le plus criant du monde. Il y a un film que vous avez peut-être tous vu plusieurs fois qui s'appelle les chariots de feu. Et c'est un type qui court. Hein. Je sais pas pourquoi je prends tous les exemples de gens qui courent, parce que je cours pas vraiment. Mais je trouve que c'est un.
L'apôtre Paul le fait aussi.
Oui, l'apôtre. Mais peut-être qu'il courait, l'apôtre Paul, je sais pas. Mais, et le gars, c'est. Il s'appelle Eric Liddell. Et il a décidé d'être missionnaire et de partir en Chine. Hein. Mais c'est un type qui court très bien et très vite. Et il parle avec sa sœur, et sa sœur est très inquiète. Parce qu'elle se dit, est-ce que l'intérêt qu'il a pour la course ne va pas le faire dévier de la mission qu'il a voulu faire? Alors, il part avec sa sœur, il discute un petit peu dans le film, on voit dans ces montagnes d'Écosse, là, et il lui explique qu'il dit, je vais aller en Chine avec les missionnaires, je vais y aller. Et la sœur est tellement contente parce qu'elle croyait vraiment qu'il allait arrêter. Et pourtant, il se prépare pour les Jeux Olympiques de 1924 en France. Et il court et il dit, et je vais vous lire ce qu'il dit, « C'est décidé, je retourne en Chine. Les missionnaires ont affirmé que ma candidature était acceptée. Jenny, sa sœur, se réjouit de cette nouvelle car elle avait craint que l'attrait de son frère pour l'athlétisme ne vienne menacer sa vocation missionnaire. » Et Eric ajouta, « Mais je crois d'abord courir beaucoup. Je dois d'abord courir beaucoup. Il faut que tu me comprennes, Jenny. Je crois que Dieu m'a créé pour un but précis, aller en Chine. Mais il m'a aussi rendu capable de courir vite, si bien que lorsque je cours, je sens le plaisir que je lui procure. Renoncer à courir serait une forme de mépris de Dieu. Tu avais raison, la course n'est pas seulement un plaisir. Pour moi, gagner, c'est honorer Dieu. » Il dit, Liddell était un homme passionné et centré sur un but précis, car il tendait de plus en plus vers l'objectif que Dieu lui avait fixé pour sa vie. Lorsque je cours, je sens le plaisir que je lui procure. Que faites-vous qui vous donne l'impression de procurer du plaisir à Dieu? Et ce que le monde a le plus besoin, et c'est cette phrase, hein, l'endroit où Dieu vous veut est celui où se rencontre votre joie la plus profonde et le besoin le plus criant du monde. Ce qui a le plus besoin le monde, c'est de connaître Dieu par l'annonce de l'évangile, mais aussi par votre témoignage dans vos vies. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas décaler le côté profane de vos activités de votre première vocation. Si vous cherchez le bon plaisir de Dieu est aussi le vôtre. Si vous cherchez votre bonheur en dehors de lui, vous ne le trouverez jamais. Si vous passez du temps avec lui, vous serez le plus heureux des hommes et des femmes. Alors efforcez-vous de lui plaire. Est-ce que dans vos activités de chaque jour, vous dites « Ah, je crois que Dieu est vraiment content de ce que j'ai fait. J'ai fait un bon travail, je suis commerçant, j'ai pas roulé ceux à qui je vends un produit, je suis médecin, j'ai fait le maximum pour que cette personne se sente bien. Je suis informaticien, je gère des choses, j'essaye de faire le maximum pour que mon travail fasse le bien. Je construis des maisons, des routes, je fais le maximum pour que ça soit bien. Je répare des chaudières, je fais le maximum pour que tout soit bien. Je m'occupe de l'alimentation pour pas que les gens aient des problèmes dans l'alimentation. Et je le fais bien parce que je le fais aussi pour Dieu. Je suis dans mes études, je fais le maximum pour que je travaille bien et que je réussisse mes examens pour que ça soit quelque chose de bien. Je coiffe les gens, je coupe leurs cheveux, je le fais bien pour Dieu, pour que ça soit... Voilà pourquoi on ne peut pas séparer votre vocation première qui est celle d'aimer Dieu et de celle que vous faites dans vos vies. Sinon, votre comptabilité de temps passé avec Dieu, elle est perdante déjà. Et puis vous manquez le coche. Une vie sainte nous aide à unir les différents composants de tous les jours, depuis le moment de votre culte personnel quotidien, qui est important, la lecture de la parole, la prière, jusqu'à l'accomplissement des tâches routinières, le tout sous la seigneurie du Christ. Et là, vous allez passer du temps avec Dieu. C'est pourquoi il est sage vraiment de reconsidérer et éventuellement de changer notre façon de donner notre temps et nos ressources. Nous avons tous des ressources. Mettons-les au service des gens qui nous entourent, mais faisons-le pour Dieu, pour que Dieu trouve du plaisir dans ce que nous faisions. Vous imaginez, quand vous faites une tâche routinière, je ne sais pas, vous vous occupez de vos petits-enfants, vous les câlinez, vous vous en occupez, ou vous vous occupez de vos parents, et vous vous dites, ça, Dieu aime ça, et Dieu prend du plaisir à vous voir faire ça. C'est le temps pour chercher l'Éternel. Osée, chapitre 10, verset 12. Amen.